Podcast. Ludivine Sanchez, art thérapeute, postula au sociétariat de Canopée, décembre 2020. Sur sensualité. La sensualité est définie comme l'attachement au plaisir des sens. Le mot même de sensualité est attribut, qualité, acte, effet ou état de ce qui est sensuel. Il est lié directement à la sexualité ou à l'attirance sexuelle lorsqu'il est dans le contexte des relations humaines. Le terme est ici employé lato sensu, c'est-à-dire dans tout ce qui est rapport à tout sens qui existe dans la vie, toute forme de sensation causée par les cinq sens, incluant de la façon la plus générique les choses vivantes et non uniquement l'humain. Pour le poète et romancier Pierre Louis, la sensualité dans cette entièreté était la condition mystérieuse mais nécessaire et créatrice du développement intellectuel. Dans l'épisode Proto-Regard, je vous ai parlé de ma sursensibilité dès la naissance. Vous pensez sûrement que j'exagère ou que, comme tout bon parent, les miens m'ont trouvé tout simplement plus éveillée que les autres. Mais je veux ici que vous compreniez vraiment cette particularité. J'aurais pu parler d'hypersensibilité établie très rapidement, mais cela voudrait tendre à dire une hyperémotivité ou une possible difficulté à la socialisation. Je ne dis pas non plus être née avec des super-pouvoirs ou une précocité motrice exponentielle dans la durée. Mes exploits s'arrêtèrent au premier jour de ma naissance et beaucoup d'enfants finissaient tout aussi éveillés quelques jours après la leur. C'est plus fin que cela. C'est un tissage de paramètres qui fait que j'ai développé inconsciemment une sursensualité. Quand je parle du plus profond souvenir qui me revient, il est avant tout olfactif. Celle de la toile de jute et de caoutchouc très prononcée. Quand j'en ai parlé pour la première fois à mes parents alors que j'étais déjà jeune adulte, ils ont été surpris que je puisse me remémorer la toile de mon lit de nourrisson, un simple lit pliant, effectivement en toile de jute, de fibres beige et marron. Quant au caoutchouc, c'était mon énorme tétine qui était ornée d'une tête d'oiseau qui faisait poète-poète en caoutchouc synthétique. Comment puis-je me rappeler de cela alors que le développement dit normal commence à installer la mémoire après 4 ans? Ici, la réponse est plus facile, je pense qu'on pourrait le croire. L'insomnie. Mes parents ont eu très peur quand j'ai eu quelques mois car je dormais peu. Surtout la nuit. Je ne faisais pas de bruit, ne pleurais pas. Quand ils ouvraient ma porte, je les regardais, paraît-il, avec mes yeux ronds, sans produire un son. Je pense que l'enfant, quel qu'il soit, s'adapte comme tout bébé animal à son environnement premier. Il ressent les angoisses, les joies, l'apaisement de son entourage. Il adapte instinctivement son organisme et son développement à son ressenti environnemental. Mes insomnies précoces et silencieuses, aujourd'hui je les comprends très simplement. Mes parents ne dormaient pas, ils étaient à l'affût, ils redoutaient d'entendre le silence. Le souffle de mon frère, ils ne cessaient de le suivre, de tendre l'oreille pour entendre ce sifflement et le décoder. Infime, Grégory dormait paisiblement. Fort, il fallait partir à l'hôpital en catastrophe. On ne l'entendait pas, il était alors peut-être déjà mort. Alors, pour ne pas briser cette concentration ultime, ce décoldage du silence, je ne faisais pas de bruit. Ainsi j'ai grandi en dormant peu, souvent au petit matin quand au final tout le monde se levait fatigué. Mon père partait au travail, ma mère sortait savon et lessive et faisait le ménage, chassait tout acarien et poussière de partout pour que rien ne puisse troubler plus encore les poumons de son fils. Et moi, je m'endormais tranquillement, le ventre encore chaud du premier biberon de la journée. Je pouvais cesser de capter d'être à l'affût et laisser mes sens se reposer. Mon enfance a été rythmée par les allers-retours de mon frère à l'hôpital. Je devins vite une petite fille calme, très sérieuse, trop responsable et secrète. J'étais très sociable et aimais jouer avec les garçons principalement. Minuscule, je tenais tête à tous les pantalons qui passaient. Moi, je voulais tout suivre, tout essayer et tout comprendre. Je ne posais pas de questions, je ne m'imposais jamais. J'écoutais, je regardais, j'épiais caché et j'analysais. J'ai grandi dans une cité HLM, pas celle d'aujourd'hui où tout est sombre et cassé. J'ai grandi jusque mes 8 ans dans un univers simple, sécurisé et aimant. Mon terrain d'exploration me paraissait sans fin. Nous étions pauvres, même si mon père travaillait très dur. Usine, routier en transport dangereux, chantier, il partait le matin et revenait le soir épuisé. Il prenait sa douche et se posait avec ses grilles de mots croisés. Mais j'ai eu une prime enfance géniale, fait de la saveur unique de reconnaître les petits plaisirs. On écoutait la musique tout le temps, on chantait, un rock passé, ma mère nous faisait danser à l'américaine à tour de rôle, on swingait en utilisant les poignées de porte de la maison comme un partenaire de danse nous tendrait ses mains. Par le sport, j'ai découvert le tactile. En vrai poisson, l'eau était pour moi un bonheur sans fin, un monde unique où j'arrivais à ressentir un effet de tout. De cet instant de pleine conscience d'être dans l'élément tout en étant spectateur. C'était si apaisant. La piscine fut aussi le lieu où pour moi l'attachement avec mon père se fit la première fois. Que le proto-regard se fit de moi vers lui. Il plongeait dans l'eau et venait me chercher au bord du bassin. Je montais sur son dos, les bras autour de son cou. Il allongeait alors ses bras dans l'eau et fendait le bassin, la tête entre ses mains. On appelait ça faire le requin. Il était l'animal marin, j'étais sa nageoire dorsale. On ne faisait qu'un. La danse me fit découvrir le plaisir tactile du mouvement. Ma peau qui transperce l'air, l'air qui frotte ma peau. Le mouvement, la liberté du corps, la prise d'espace et le contrôle des muscles. Le ballet classique demande de plier le corps à l'exigence de la grâce au profit de la douleur. Mon corps s'est mis à changer. Moins fine, mais toujours petite. Alors vive le sport et le mouvement, on passe à autre chose, à une autre danse, au karaté et d'autres choses encore. Quand je ne faisais pas de sport, je ne laissais pas mon regard analyser mon entourage, je découpais du papier. Une zone de couleur, un visage, un mot, une lettre, un logo, un objet, tout comme on peut le faire aujourd'hui sur Pinterest, moi j'épinglais à ma façon tout ce qui attirait mon œil. J'ai passé tellement d'heures à observer, carton, emballage, tout passait et ma mère me laissait faire à me voir éparpiller ses 1001 confettis dans ma chambre, si sérieuse et si enjouée. Pour étancher ma soif de comprendre et cerner, j'ai vite pris l'habitude de lire. Mes parents, même de petites sociétés, sont des gens lettrés. Tout comme leurs parents respectifs. Lire dans ma famille a toujours été un plaisir partagé, même si les univers explorés sont différents. On ne jetait jamais un livre même de poche et la maison ne manquait pas de magazines à lire. Au milieu de tout cela, je me mis à lire tant et plus surtout la nuit, à la lampe de poche, dans les toilettes ou à la lueur des lampadaires extérieurs. Tout se lisait, tout était bon et je passais mes nuits dans les mots, pensant tenter obtenir une vision super nocturne tel un chat. Je finis bien évidemment à devoir porter des lunettes pour mes 10 ans. Ma lourde myopie, parfois gênante, est compensée par l'amplification de mes autres sens, et je ne le vis absolument pas comme un handicap. J'aimais écouter ma famille rire, parler, entendre les variations de ton dans leurs échanges, pour distinguer ce qui leur plaisait, ce qui les dérangeait. Et cette petite fille qui parlait peu, qui remarquait tout, et qui ne cherchait pas à plaire pour autant, les mettait mal à l'aise. Dans le garage, je coinçais mon doigt dans l'étau de l'établi en faisant tourner le levier jusqu'à laisser la trace visible des sillons de l'étau sur moi. Je ne cherchais pas la douleur, je cherchais la sensation, le froid du métal, la rougeur du pincement et enfin sentir sous mon doigt les petits sillons incrustés. J'aimais aussi l'odeur de l'établi. Plus que les insectes que ma mère continuait encore de contempler avec émerveillement, moi je contemplais le grand tout dans le jardin. C'était grisant, envahissant et solitaire. On pourrait penser que de tout cela, de toute cette conscience recherchée des choses, je n'ai eu que du plus. Mais quand je parle de sursensibilité, aujourd'hui, je peux dire que le bénéfice se paie par le prix de cet excès. trop longtemps dans un environnement où migraine olfactive arrive, hyperacousie ou photophobie. Très souvent des acouphènes la nuit, une fatigue cérébrale quasi permanente en fin de soirée. Je ne dors toujours pas, peu ou mal. En fait, je dors, mais différemment du commun. Quand je n'ai pas d'insomnie, mon sommeil ne tient plus qu'à deux phases. Mon sommeil devient trop profond et il est difficile d'en sortir. Je fais aussi de la paralysie du sommeil, c'est-à-dire que mon cerveau se réveille avant mon corps, bien trop fatigué car trop agité dans mon sommeil. Dans le sommeil paradoxal, il se tétanise, se déforme, comprime mes nerfs cervicaux.